Petite intro.
C'est qui?
C'est un trou du cul, seigneur.
Et ça, je l'ai vu. C'est son nom que je demande.
C'est son nom, seigneur. Trou du cul. Major Trou du cul.
Et son cousin?
C'est un trou du cul aussi. Canonnier de première classe, Philippe Trou du cul.
Est-ce qu'il y a encore d'autres trous du cul à bord de ce vaisseau? Ça, je le sentais, je suis entouré de trous du cul.
Feu à volonté, bande de trous du cul!
Bah, bonjour, bonsoir et bienvenue à Men on Pause épisode 14, un épisode que nous n'enregistrons pas bien sûr pour la troisième fois. Bah, Men on Pause, c'est votre podcast pod culture qui n'a pas de règles, avec bien sûr Tanelir. Comment ça va?
Salut, ça va, ça pète la forme pour une fois.
Provençal, tu vas bien?
Ah, impeccable, impeccable. Et toi alors?
Bah, moi ça va, tranquille, ça y va. Je croise les doigts pour que cet enregistrement fonctionne normalement pour la troisième fois, n'est-ce pas déjà Gore?
Écoute, quand je vais bien, c'est Juvamine.
Ça vous met dans l'ambiance.
Reproduction presque à l'identique de la fameuse phrase.
Là, on est dans l'ambiance des productions un peu de merde. Écoutez, pour cet épisode, je dis écoute parce que je pense qu'on n'a qu'un seul auditeur pour l'instant.
Ouais.
Oui, c'est notre monteur, notre auditeur fidèle qui n'a pas le choix de nous écouter anyway et qui n'a pas le choix d'être spoilé parce que on va certainement parler un peu de Doctor Strange, mais pas que, vu qu'il est sorti il y a quelques semaines, on est bien paré pour faire une sorte de bilan de mi-parcours de la phase 4 du MCU, juste avant la sortie prochaine de Thor, justement 4 en juillet, Love and Thunder. Et puis, bon, petite particularité pour cette phase 4 du MCU, qui est la première phase qui combine à la fois les séries et les films. Est-ce que c'était un bon choix ou pas? C'est ce qu'on va discuter maintenant. Cet épisode, on va l'appeler MCU phase 4 ou phase K4. Jingle.
C'est votre porte-photo.
J'ai pris rendez-vous avec quelqu'un qui veut voir mon travail.
De la merde. De la merde. De la merde. De la merde. De la merde, de la merde. Ça oui, c'est du bon travail.
MCU phase 4 ou phase K4, c'est un peu le bilan de mi-parcours de cette quatrième phase du Marvel Cinematic Universe. Et du coup, comme on est absolument hyper préparé, je vais checker les films qui composent et les séries qui composent cette phase. Hein, c'est du live.
Je ne les connais pas par cœur.
Hein, non, écoute.
Alors moi, je vais te les réciter.
J'ai paumé mon scénario de ce podcast, je ne sais pas où.
Non, mais moi, je les ai de tête. Il y a Black Widow, Shang-Chi, Les Éternels, Spider-Man No Way Home, Doctor Strange, Thor, Love and Thunder, Black Panther, Wakanda Forever, The Marvels, Les Gardiens de la Galaxie 3, Ant-Man et la Guêpe, Quantumania.
La version antillaise de...
C'est du Guatemala. C'est parce que j'ai lu les 4 fantastiques et que j'ai fait un rejet les 4 fantastiques. Bien sûr, tout ça, c'est de tête. Voilà. Vous l'avez senti.
Sans oublier la série Loki.
Les séries, je n'ai pas cité les séries. Alors les séries,
WandaVision.
WandaVision, on ne sait pas.
Et Astérix chez Cléopâtre, comment il s'appelait?
Hawkeye.
Qu'on peut facilement oublier.
Non, mais comment il s'appelle le dernier? Putain, j'ai oublié.
Avant d'oublier, il faut l'avoir.
Le dernier, c'est Moon Knight.
Moon Knight, voilà. Donc voilà, la phase 4 a commencé officiellement avec, si je me trompe pas,
WandaVision.
Ouais, juste après. Bon, Black Widow, étant donné que c'est une sorte de préquel, on va pas forcément le compter, à part peut-être la scène post-générique qui la lie un peu à Hawkeye.
Je pense qu'on peut parler de Doctor Strange et Moon Knight, enfin les deux derniers qui ont bouclé à de la première moitié. Je pense que c'est à l'image de la phase... Pour moi, c'est à l'image de la phase 4 en entier. Autant Moon Knight, c'était plaisant. 6 épisodes, ça va, ça n'a pas trop débordé. Il y a juste ce qu'il faut pour te tenir en haleine. Autant Doctor Strange, c'était... c'est comme son nom, Strange. Hein, c'était bizarre comme film, ça. Là. Celle d'abord, je ne sais pas ce que j'ai regardé. C'est Sam Raimi qui nous fait un trailer de 2 heures. Ou là, c'est Disney qui essaye de Disney-ifier l'horreur. Je ne sais pas, ça. Là.
T'as dû regarder regardé une partie Disney sur les parties que Disney devait faire. Et sur le reste du temps, ils ont dit fais ce que tu veux. Tant ouais, que tu coches cette case et cette case, le reste, vous faites ce que vous voulez à peu près. Non, on s'en fout.
Bah, moi déjà, comment juger ce. Cette phase, moi je suis sûr que c'est la première phase où les gens qui suivaient habituellement le reste n'ont pas tout vu. Et quand je dis n'ont pas tout vu, je parle pas forcément des séries, mais également des films. C'est-à-dire là, quand je vois autour de moi, Black Widow, perso je l'ai commencé, je l'ai pas fini, c'est-à-dire je m'étais endormi, je n'ai pas essayé de le revoir, Shang-Chi, j'ai même pas essayé, Les Éternels, j'ai zappé, et, c'est impossible quoi, Spider-Man No Way Home, je trouvais que c'était correct, c'est-à-dire c'est un film qui n'est pas déplaisant, mais concrètement il n'y a rien dans le fond, Doctor Strange c'est le premier qui essaie de placer quelque chose, là encore il n'y a pas, un grand fond, mais sur la forme il est plutôt réussi, il fait un peu avancer le chemin biblique, il y a un vrai lien avec WandaVision, ouais, tu as l'impression qu'il est utile, qu'il essaye de faire avancer les choses. Et le reste, là encore, je trouve que ça se passe de commentaires. Je suis globalement très déçu.
Si on se faisait un petit classement rapide, pour l'instant, lequel vous mettriez par exemple, bon, moi, Black Widow... Bon, tout, la phase 4. La phase
bizarrement,
4. Si on devait faire un.
Bizarrement, moi je mettrais Spider-Man No Way Home en premier. C'est le film qui ne se fout pas de ta gueule. Quoi. Tu sais que c'est du bon gros fan service, mais tu vois, bien dégueulasse, bien in your face, mais c'est réussi.
Ouais, il est très réussi. Moi aussi, je le mettrais en premier. Quoi. Parce qu'en fait, il regroupe tous les thèmes. En fait. Il regroupe à la fois le post-Thanos, post-Tony Stark, il regroupe en même temps Doctor Strange, il regroupe aussi le multivers, il est super bien réalisé, foutu, on a eu du bon fanservice bien comme il faut. Ouais, je pense que c'est en termes de film, c'est le seul qui tient la route, en tant que film, où on a eu pour notre argent.
Oh, moi, je dirais quand même, moi, c'est plutôt Doctor Strange que je mettrais en premier. Tu vois, je vois pas... Exactement ce qu'on pourrait jeter là-dedans. Par exemple, le multivers, on peut comparer ça à ce qui se passe aussi dans Spider-Man. C'est-à-dire que Spider-Man, par exemple, le film, je l'ai pas trouvé déplaisant, mais il y a quelque chose qui me gêne. Pour moi, c'est comme si, à l'époque là, des comics, c'est comme les What If. J'ai l'impression que si je mets un What If, même si on a les anciens persos qui apparaissent, ça nous fait plaisir de revoir les deux anciens Spider-Man. Mais je sais que concrètement, tu vois, c'est passager, que c'est du fan service, justement, et que c'est pas ça qu'on va voir dans les prochaines phases. Donc, du coup, il y a un côté vraiment hors série, je trouve. Et ça, ce qui me fait que le film, à la limite, j'ai pas envie de le placer dans la phase 4. Pour moi, c'est presque un film un peu hors phase.
Mais je pense que c'est une caractéristique de la phase 4 parce que déjà c'est la seule phase, entre guillemets, on est à la moitié, mais bon, c'est déjà vrai, qui a été complètement chamboulée par le Covid. L'ordre de parution n'est pas le même qui était prévu. Il y a eu plein de reshoots pendant qu'ils filmaient certains films et séries de cette phase. Normalement, Doctor Strange était censé sortir, je pense, après WandaVision.
Falcon en premier, ensuite WandaVision et Doctor Strange juste après.
Voilà, et normalement, à ce moment-là, le multivers n'est pas encore bien établi. Parce que ça commence avec Loki et ça se confirme avec Spider-Man.
Bah, en fait, c'est le problème avec le Covid, comme tu dis, ça a été chamboulé parce que autant... J'ai l'impression que l'œuvre un peu pilier charnière de cette phase 4, ça reste quand même Loki. Quoi. Parce que logiquement, Loki est l'œuvre qui est un peu introduit l'élément principal narratif de cette nouvelle phase. Apparemment, le grand méchant de cette phase-là va être révélé surtout... Enfin, il a déjà été révélé dans Loki à la fin, mais il sera surtout révélé Ant-Man. Ça va être lui la menace principale dans Ant-Man. On aura certainement les quatre fantastiques qui vont être teasés durant Ant-Man aussi. D'ailleurs, il y a des rumeurs qui disent justement qu'ils sont dans le Quantum Realm, qui sont enfermés là-dedans depuis les années 60. Donc on aura en fait des quatre fantastiques qui sont enfermés dans la dimension microscopique depuis les années 60. Donc logiquement, on aura peut-être leur introduction dans Ant-Man. Non, mais du coup, tu sais, quand tu regardes la phase 1, ils avaient un boulot peut-être un peu plus facile, c'était juste de présenter au fur et à mesure les Avengers, quoi. Chacun son histoire principale. Et finalement, la menace principale se faisait, tu le voyais, je pense, après le film Avengers. La première fois que tu vois Thanos, c'est après le film Avengers. Donc, c'est ce qu'ils sont en train de faire d'abord. Ils sont en train un peu de teaser la menace qui sera certainement quand et après le Docteur Doom. Donc, bon, Zama, c'est pas forcément raté, mais voilà quoi. Donc, pour l'instant, j'ai pas l'impression que c'est encore de la grosse merde. Juste, c'est un peu foutoir, quoi.
Ah mais carrément, c'est carrément un foutoir. D'un côté, c'est pas leur faute. Il y a aussi une faiblesse dans l'écriture dernièrement. Ils permettent des facilités. Je veux dire que la structure d'un film Marvel qu'on retrouve maintenant dans les séries et dans les films, la répétition d'Yelha, elle gave à un moment. Tu as Saf...
Surtout ça, le problème, je pense, de cette phase. Moi, je pense que c'est le multivers à moitié vide. Voilà. Si c'était pour moi, je sens cette incroyable note d'humour. Je compare les films de la phase 4, de la phase 3, mais il y a des trucs très simples, je pense, parce que la recette est la même, que ce soit par film ou comment ils construisent leur phase. Deux ou trois films OSEF, ils sont là pour maximiser la thune. T'avais un Spider-Man dans la phase 3, là tu as Black Widow, t'as des films comme ça, je dis il y a une marque, allez, on voit ça. Ils n'ont pas d'impact scénaristique. Après, le truc, c'est que c'est tout con, mais comme ils ont épuisé les héros populaires et les marques populaires, t'as plus d'Avengers, t'as plus de Captain America. Et du coup, dès que la hype qu'on a pu ressentir avant, là tout à l'heure, vous parliez de la révélation de Thor, parce que c'était un personnage qu'on connaissait, que c'était le début de cette façon de faire du cinéma. De t'annoncer à la fin d'un épisode, d'un film, qu'il va y avoir un truc et de te hyper. Déjà, je pense qu'on est un peu désensibilisé. Lina Kansena, le post-générique, moi, des fois, je les regarde pas et je dis je les regarderai sur YouTube après. On est beaucoup moins sensible et du coup je pense que ce qui se passe c'est que la recette vieillit sur le même public. Tu sais à l'avance quel type de film tu vois. Moi quand j'ai vu Shang-Chi, à aucun moment je m'attendais à voir un film important pour le MCU et c'était le cas. J'ai vu un bon film Disney, on aurait dit Kung Fu Panda encore plus pour les enfants. À la limite, dans Kung Fu Panda, il y avait des trucs plus sympas. Mais voilà quoi. Et du coup, vu qu'il n'y a plus les grosses marques, on s'accroche à des trucs en fait. Mais on est leur top tier de héros, là, ils ont affaibli.
On s'accroche pas.
On s'accroche pas, mais.
Parce que nous, on l'a quelque part, grandi, mais on a vécu, dit que la phase de développement de Marvel. Normalement, il devrait suivre avec nous, il devrait grandir aussi en même temps. Pas forcément changer de fusil d'épaule et tu vois, nous donner. Je parle de nous, adultes, des films rated R ou un truc du genre. Pas forcément nous donner que ça, mais faire plaisir à ceux qui ont suivi Mloul tel d'abord, qui ont changé depuis le temps. Tu fais, je sais pas moi. Tu me mets un Deadpool rated R qui va quand même voir un peu l'audience d'elle
ce
qu'ils font.
Bah, en fait, ce qui est marrant, la phase 4, c'est que tu sens en fait qu'ils essaient de trouver d'autres recettes pour hyper les gens. Autant, comme tu disais, des algores dans la phase 1 et même jusqu'à la phase 3, ils arrivaient à hyper les gens par rapport à ce qui est arrivé après. Comment ils te teasaient sur ce qui allait arriver après, les personnages peut-être que tu allais voir plus tard, ou le type d'histoire ou la storyline qui va venir. C'est comme ça que tu étais hypé. Aujourd'hui, vu que c'est une formule qui s'essouffle, ce qui est marrant, c'est que pratiquement, genre, au moins les trois quarts des trucs des œuvres de la phase 4, ils ont fait marche arrière, ils vont jouer la carte de la nostalgie, ils vont aller chercher des gens que tu connaissais avant pour te hyper, que tu vois, que ce soit dans WandaVision avec Quicksilver qui ramène, que ce soit dans Spider-Man, même avec Daredevil, hein, pas forcément avec les deux Spider-Man, Hawkeye, il te ramène Kingpin, Doctor Strange, Professeur Xavier, etc. T'sais, à chaque fois, ils vont te chercher une figure nostalgique du passé pour essayer de créer la hype. Ça montre, tu vois, qu'ils sont obligés de jouer cette carte-là pour continuer à t'exciter.
Ça devient une solution de facilité en fait. C'est pas quand tu cuisines, tu rajoutes du sel. Tu rajoutes un truc. Ouais, à un moment, ça fait que tu le.
Oui, mais bon, ce que je trouve bizarre, c'est qu'ils quand même, ils ont racheté la Fox, donc ils peuvent continuer. Je veux dire, je trouvais ça débile d'introduire Reed Richards comme ça pendant 5 minutes avec un fan cast en plus, John Krasinski. Alors bon, ok, c'était marrant de voir Wanda le trucider en mode caramba, mais tu as dans ton planning une des franchises les plus populaires qui n'a pas encore été exploitée. C'est dommage d'introduire introduire les quatre fantastiques de manière aussi tu vois, bâclée, quoi. Franchement, même moi qui suis fatigué, tu m'aurais teasé sur quatre fantastiques, le Baxter Building, etc., bah, ça m'aurait pas déplu, tu vois. Tu as les X-Men aussi, et tu ramènes Xavier comme ça, et tu le trucides comme un pauvre gars sénile. Enfin, c'est dommage, quoi. Tu as niqué un peu la réintroduction des X-Men et des quatre fantastiques dans Doctor Strange de manière bâclée, quoi. En mode caméo express. Tu vois, même si tu me retises sur les quatre fantastiques et les X-Men, ça y est, tu m'as déjà montré qu'ils faisaient partie de l'univers Marvel. C'est dommage, quoi.
Non, moi, ce que je trouve un peu dommage dans cette phase, c'est qu'en fait, ils répètent leurs erreurs. Une erreur qu'ils ont faite avec Star Wars chez Disney. C'est-à-dire que, par exemple, moi, j'ai la principale erreur, disons, le principal ingrédient qui a fait le succès des trois premières phases, c'est que dès le début, on savait qu'on nous a présenté Thanos, et du coup, tu avais beaucoup de gens qui ne connaissaient pas ou qui avaient entendu parler de Thanos dans la BD, etc., bah, qui étaient vraiment hypés, qui s'attendaient à un personnage vraiment important. Et plus ils retardaient la chose, plus l'arrivée de Thanos avait un côté grandiloquent. Et c'est ce qui fait qu'on est, tu vois, disons que les trois phases ont été construites comme une sorte d'épopée. C'était limite, on va dire, une espèce de... C'est l'Iliade et l'Odyssée version moderne, en quelque sorte. C'était du Homer, un côté homérique, on va dire. Oui.
Bah c'est vrai que Thanos débarque que avec Infinity War. Hein.
Voilà, mais tout ça a été chapeauté d'abord par Jon Favreau, puis les frères Russo et Kevin Feige à leur tête, et ça a pris quoi, 9 ans, un truc comme ça. Après, même quand on voit le nombre d'entrées, ça montre qu'il y avait des attentes, qu'il y avait une très grosse attente, et ça s'est concrétisé en battant le record tu vois, du film... au plus gros succès de l'histoire. Après, en parallèle, ils ont fait une grosse connerie. Justement, c'est avec Star Wars. Ah, puis ils ont fait quoi ? La deuxième, la prélogie a été faite pour voir l'évolution, comment Anakin Skywalker, le petit Anakin Skywalker, est devenu Dark Vador. Et donc voilà, il y avait un scénario qui, enfin, une trame qui était faite pour les trois films. Là, pour les Star Wars, au lieu d'écrire une histoire qui allait se dérouler en trois films, ils ont fait quoi ? Ils ont fait, alors, on fait le premier film avec J.J. Abrams, le deuxième avec autre connard, j'oublie comment il s'appelle. Et puis on te ramène J.J. Abrams pour sauver ce qu'il avait essayé de...
Ce qui a été détruit dans le 8.
Voilà, et avec le 9, il essaye de recoller les morceaux. Tout ce qui restait de l'univers Star Wars, c'était Lando. Donc il essaie de lui donner un petit moment de bravoure à un vieux monsieur de 80 ans, Billy Dee Williams, c'est tout. Donc ouais, il y avait vraiment un gâchis. Là, j'ai l'impression qu'ils sont en train de s'enfoncer, de faire encore pire. Avec cette quatrième phase, est-ce qu'ils se cherchent ? Est-ce qu'ils font juste du woke parce que c'est le truc du moment ? Les nouveaux persos qu'ils introduisent, franchement, je les trouve pas crédibles. Il y a même des personnages comme, par exemple...
Ils sont en crise de leader, en fait. C'est la première fois depuis le début du MCU où ils ont une phase de 1 an, 2 ans, sans leader. Avant, ils avaient Robert Downey Jr.
Et
Chris Evans qui portait un peu la franchise. Maintenant, ils sont en manque de leader. Maintenant, qui y reste ? Tu as normalement, en tant que tête d'affiche, tu as Benedict Cumberbatch et Chris Hemsworth. Et Tom Holland, il est pas encore... c'est pas encore le chef, tu vois. C'est pas encore celui qui va porter la...
Non, mais je te parle de gens qui ramènent de l'audience.
Mais c'est encore... Il y a le problème Sony, tu vois. C'est pas encore...
Et tu dis, il y a personne comme chef. Pourquoi ? Parce que normalement, un chef, on va dire que c'est un personnage qui doit rester relativement normal. Même si dans le comic, c'est un moment... t'avais des personnages qui peuvent être intéressants, comme par exemple Wasp. Mais bon, elle est pas encore assez introduite dans le MCU pour qu'on la mette comme chef. En plus, bon, c'était pas la Wasp qu'on connaît là, c'était Janet Van Dyne. Donc là, il y a qui ? Par exemple, il faut que le personnage, là, le leader, soit, on va dire, quelque part plus ou moins normal. Maintenant, le seul personnage qui est plus ou moins, enfin, qui est normal jusque-là, bah, il faut qu'il soit humain, qu'il ait un peu la tête sur les épaules, etc., bah, c'était Sam Wilson. Et c'est le seul qui a été relativement mis en avant parce que, par exemple, War Machine, par contre, James Rhodes, lui, je trouve qu'il a toujours été en retrait, il a un côté timide. Alors, quand c'est un putain d'acteur, c'est
l'un des meilleurs de ce que j'allais dire.
On l'a jamais mis en avant et c'est stupide parce qu'à un moment, je pense que c'est lui qui était chef des West.
Il a pu reprendre le flambeau d'Iron Man, quoi.
Ouais, mais moi, bon. J'ai toujours préféré à Tony Stark dans le comics. J'ai toujours préféré à Tony Stark, moins arrogant, plus terre à terre et tout. Donc là, lui, on l'a trop mis en retrait. Sam Wilson, dans la série Hawkeye and Winter Soldier, on en a fait un petit pleurnicheur dépressif ou je ne sais quoi. Ça casse le côté leader. Après, il reste quoi ? Bah, Vision, c'est un robot. Captain Marvel, c'est une folle. Wanda, là encore, elle est perchée. L'autre, Doctor Strange, il est un peu perché lui aussi. Il y a personne, c'est-à-dire que...
Non, mais en fait, ce qu'il y avait d'intéressant, Ant-Man, non, bah, il est toujours bouffon. Après, il a eu un petit côté sérieux au bout d'un moment. Mais ce qui était intéressant dans Tony Stark et Steve Rogers, c'est que les deux avaient deux arcs complètement extrêmes. Déjà, ils avaient une stature. Ils crèvent l'écran, ils inspirent. T'as envie de suivre ce personnage. Je veux dire, le seul qui avait ce potentiel-là, c'est Doctor Strange. Et vous me le rendez un peu en bouffon passif. C'est-à-dire que là, peut-être le côté chef d'équipe, les seules limites qui ont ce potentiel-là prochainement, logiquement, Zama, ce serait peut-être Reed Richards et Xavier, quand tu m'introduiras les 4 Fantastiques et les X-Men. C'est eux peut-être qui pourront remplacer...
C'est les chefs de leurs équipes.
C'est les chefs de leurs équipes, mais c'est-à-dire que je vois mal quelqu'un au-delà de Reed Richards assumer cette notion de leader de groupe ou des New Avengers, parce qu'il est à la fois Tony Stark dans le côté génie et à la fois Captain America dans le côté super pouvoir, etc.
Normalement, c'était Chadwick Boseman dans Black Panther qui était censé être celui qui allait porter cette phase. Malheureusement,
RIP.
Il est décédé, mais voilà quoi.
Mais voilà, mais même Thor, tu vois, genre au moins au début de la phase 1, tu avais quand même 3 personnages phares. Bouffant. Ouais, mais maintenant il est bouffon, alors que dans le premier Thor, il était shakespearien quoi. Donc, je veux dire, la première rencontre entre Thor, Captain America et Tony Stark dans la forêt dans Avengers, elle était quand même épique quoi. Tu voyais vraiment 3 grandes figures que tu vois qui s'affrontaient et qui faisaient connaissance. Tu t'en rappelles toujours de ce moment. Pour l'instant, quels sont les personnages que si tu me les remets dans une forêt comme dans Avengers et tu me les fais rencontrer pour la première fois, qui va me foutre les frissons? Tu me ramènes Hawkeye, enfin Hawkeye il faisait partie, mais tu me ramènes, comment il s'appelle, Moon Knight avec Loki et
la malade mentale.
Ça va pas être culte quoi, ça va pas être une série culte. Pour l'instant, ils sont en manque de personnages leaders avec une stature. Le seul qui ramène de l'audience est Tom Holland, mais il est encore ado et Ed il va se créer. Ed il devient.
Il a aucun charisme. Par cœur, on connaît.
En même temps, il est encore à Sony. Hein. C'est aussi un problème qu'ils devront régler.
Ouais, et puis bon, zéro charisme, donc il peut rien faire.
Autant Peter Parker pour l'instant avec Tom Holland, c'est le seul qui a eu grâce à la phase 3, mais c'est le seul qui au moins est en train de suivre un arc narratif intéressant. Où le Peter Parker post No Way Home n'a rien à voir avec le Peter Parker de Civil War. Il y a vraiment une évolution en termes de mentalité, etc. Mais tout le reste, les arcs narratifs, ceux de Loki à voir encore, mais voilà quoi.
Il y a un problème de focus aussi, je trouve. C'est-à-dire que sur la première phase, tu n'avais pas l'héritage, tu n'avais pas tout ce côté conséquences et pistes à développer pour plus tard. Du coup, jusqu'à la phase 3, ça allait plus ou moins dans la même direction, même si de temps en temps, ça allait ouvrir des portes pour bien plus tard. Mais on avait un début de phase qui expliquait en gros qui étaient les gentils, et puis la menace s'installait bon an mal an, la grosse menace finale. Mais on arrive à comprendre que tout ça est à peu près dans une direction. Cette phase, pour le moment, la vérité, pourrait me mettre les films et les séries dans d'autres ordres et me raconter une autre histoire. Franchement, j'ai l'impression que les liens sont faits surtout avec les scènes post-génériques, au point où des fois ça en devient ridicule d'un point de vue scénaristique. Il n'y a que la scène post-générique qui vient te rappeler que ça fait partie du même univers. Et du coup, il n'y a pas ce focus. Donc c'est vrai que là, on est à la moitié de la phase, on a l'impression d'avoir vu pas mal de choses divertissantes, mais on ne sent pas encore le souffle épique qu'il y a pu avoir dans les phases précédentes. On se dirige vers quelque chose. Là, la vérité, il n'y a pas de menace précise. J'ai l'impression que tout le monde, tous les personnages, à chaque fois qu'on nous les présente, ils gèrent les conséquences de la phase précédente. Tu sais, j'ai l'impression que même les scénaristes sont un peu eux-mêmes envahis par ces conséquences-là, où en fait, il faut prendre en compte tellement de choses. Et du coup, j'ai l'impression qu'on voit que ça. Les films, enfin tous, beaucoup de films qu'on a vus et de séries, sauf pour les nouveaux personnages, mais c'est en tout cas... Regarde les conséquences de la phase, ce qui se passe dans Doctor Strange, même si je ne l'ai pas vu, mais c'est des conséquences de la fin de la phase précédente. Donc j'ai l'impression qu'on gère que ce système de conséquences, qu'il n'y a pas du coup une grosse menace, un truc épique qui se met en place.
Mais vous remarquez aussi un truc, le point commun entre tous les personnages, c'est qu'ils sont un peu à l'image de la société américaine actuelle, ils sont complètement paumés. Black Widow était un peu paumé là, dans les derniers films, Doctor Strange est un peu paumé, Spider-Man est paumé, Moon Knight est paumé, Loki est paumé.
Ils sont aussi à l'image des scénaristes. Ils sont aussi
des scénaristes.
Parce que Ouais, bah c'est ça le problème, je pense.
Winter Soldier est complètement paumé, mais bon, enfin lui, au moins, on comprend, on sait d'où ça vient.
Ouais, on sait d'où ça vient, mais tu sais, c'est la phase, c'est le virage qu'ils vont devoir bien négocier. Parce que ça commence à se complexifier un peu au niveau des scénarios et des moments où ça se recoupe entre série X et film Y. Là, ça commence à être un peu plus complexe que les trois premières phases. C'est là où il faudrait bien faire gaffe, surtout avec l'introduction du multivers, à ne pas devenir comme Marvel Comics dans les années 80, où c'était un foutoir énorme, et bizarrement, je pense années 80, début années 90, bizarrement, l'un de ceux qui était à l'origine de ce problème, c'est Kang. C'est l'introduction du multivers et du voyage dans le temps. C'est un virage très difficile à négocier.
Ouais, c'est soit 2000, ils sont devenus complètement paumés. Les comics, c'est plus les années 2000, enfin plutôt à partir de 2005, disons après Civil War, que c'est devenu un peu le gros foutoir. Mais
bien avant, c'est devenu un foutoir. C'est devenu un foutoir après, dans les années 80, on a eu le premier Secret Wars. On a eu c'est après Secret Wars.
Oh, c'est un foutoir maîtrisé.
Ouais, ça reste un foutoir quand même. C'était bien le succès a masqué les problèmes scénaristiques qui allaient apparaître après. Dire maintenant tu as le différentes lignes éditoriales pour différents univers, régies par différentes équipes de scénaristes, d'écrivains.
Non, c'était pas ça à l'époque.
Là, c'est après les conséquences de ça, c'était les différents.
C'est plutôt chez DC, je crois.
Ou alors je pense à DC, je sais pas. Mais après.
Non, parce que enfin, moi, à l'époque, je lisais.
C'est les années 90, on a eu droit un peu au voyage dans le temps et l'introduction.
Ouais, il y a toujours eu. Quand tout ça, c'était bien plus vieux, mais. Il n'y avait pas vraiment de conséquences. Ça ne cassait pas vraiment les lignes temporelles.
Alors, je pensais peut-être à DC, mais à un moment, c'était le foutoir aussi dans Marvel.
Le foutoir, ça a vraiment commencé avec Civil War. À un moment, il y avait aussi eu après Onslaught, il y a eu Heroes Reborn puis Heroes Return. Là-bas, c'est une sorte de relaunch, mais. Tu vois, ils sont revenus un peu sur leur décision. Pendant un an, ils ont fait une sorte de relaunch. Un faux relaunch, parce qu'en fait, après Onslaught, il y a des personnages qui ont été tués, tout ça. Il y a ensuite Onslaught, Franklin Richards qui a recréé un monde.
C'est le mix entre Professeur X et Magneto.
Donc, grosso modo, après, il y avait Heroes Reborn. C'était quoi? C'était les personnages. C'était pour, si tu veux donner un petit coup de jeune, ils ont recréé enfin, un monde créé par Franklin Richards avec des nouvelles versions. Les personnages qu'on connaissait sont partis ont été recréés dans un nouveau monde avec parfois des versions plus jeunes ou avec des nouvelles origines, etc. Mais un an plus tard, pendant ce temps-là sur Terre, il y a des personnages qui étaient restés là. Donc ils ont remis un peu en avant des licences un peu oubliées comme Alpha Flight ou. Par exemple, ils ont mis en avant des nouvelles équipes comme les Thunderbolts, des choses dans le genre. Mais après, tu vois, un an plus tard, ils ont fait Heroes Return, ils sont un peu revenus sur leur décision, ils ont remêlé, ils ont ramené de nouveau les anciens persos. Mais après, jusqu'à Civil War, c'était relativement stable. Et après Civil War, là, ils ont commencé leur délire avec plusieurs arcs, le fait de vouloir... comment dire, lier toutes les séries, impliquer de plus en plus les séries les unes avec les autres. Et c'est là où ça a été un peu le vrai foutoir, parce qu'ils ont commencé à vouloir, par exemple, tu vois, ramener des personnages morts qui avaient eu un succès, parce que tiens, tel personnage serait intéressant au niveau éditorial. Ils ont tué Captain America, puis ils l'ont ramené. Ils ont ressuscité Gwen Stacy dans un univers parallèle, alors que le personnage était mort depuis 30 ou 40 ans. Et là, tu vois...
Le multivers va leur permettre de faire ça. C'est-à-dire c'est une formule à facilité scénaristique.
Mais ça casse tout le côté épique.
Utiliser.
Voilà, parce que ça casse tout le côté épique. C'est-à-dire que, tu vois, limite, c'est comme si on ramenait l'oncle Ben. Non, parce que la mort de l'oncle Ben a forgé Peter Parker, sa Spider-Man. Place. La mort de Gwen Stacy l'a encore fait évoluer. Son mariage avec... Mary Jane lui a fait passer un cap. Il y avait une évolution là, t'as l'impression que ça devient un peu comme Picsou ou Mickey, où on te fait des histoires sans se soucier de ce qui se faisait vraiment avant. Et voilà, c'est devenu plus des produits qu'un semblant d'histoire qu'il y avait encore il y a 15 ans.
Heureusement, on n'en est pas encore là, mais tu commences à voir les indices qui pourraient y arriver éventuellement.
Au niveau des films.
Ouais, enfin au niveau de la structure du MCU maintenant, parce que maintenant tu as le multivers, ils ont introduit le concept des variants, le voyage dans le temps, tout ça, ça sent pas bon.
Ah, pour moi c'est déjà parti en couille, parce qu'ils ont un bestiaire incroyable, ils l'utilisent pas, et à la place, ils essaient des expérimentations, alors que tu vois, ils sont pas encore essoufflés, donc je comprends pas pourquoi ils en arrivent là.
Ouais, bah limite Anna, ce que j'aurais aimé qu'ils fassent à la place, bon c'est pas du tout comparable vu que bah, c'est une œuvre un peu bancale, pas le même budget, cheapos. Mais par exemple quand tu vois le Arrowverse, ce qui est sympa dans le Arrowverse, c'est que ils arrivent à t'installer différents personnages, chacun dans son univers, chacun dans son monde, dans des univers parallèles, tu vois, à part Arrow et Flash qui sont dans le même univers, dans deux villes différentes, tu les suis tout seul. Supergirl, elle est dans une autre terre, dans un autre univers. Batwoman, elle est dans un autre univers. Bon, la plupart des séries, c'est un peu de la merde. Enfin, Batwoman, c'est pas top du tout. Supergirl, c'est cheesy. Flash, c'était sympa au début, à la fin. Mais en tout cas, du coup, ça crée la hype quand ils faisaient les épisodes crossover par saison, où tu les voyais se réunir. Et donc, du coup, quand il y a eu Crisis dans la saison, je ne sais plus, 8 ou je sais pas quoi, la Crisis Infinite Earth, où tu avais tous ces personnages-là qui se retrouvaient et qui voyageaient à travers plusieurs multivers, avec Lex Luthor qui essayait de buter tous les Superman. Au moins, ça crée un rendez-vous épique. Et je pense que s'ils avaient commencé la phase 4 avec Loki en officialisant le multivers, et qu'ensuite ils se seraient amusés à se donner une liberté totale en faisant des films, en introduisant peut-être des nouveaux personnages, mais dans des univers différents. Tu m'introduis d'autres personnages, peut-être les X-Men, tu m'introduis peut-être Moon Knight qui est dans un autre univers aussi, etc. Genre en mode je repars à zéro. Et du coup, là, j'aurais peut-être retrouvé un peu une formule intéressante comme la phase 1, où tu reviens et tu prends ton temps de me présenter des nouveaux personnages sans forcément les lier à l'héritage du MCU. Tu prends le parti pris que c'est des multivers complets, enfin, c'est des univers différents, déconnectés. Et du coup, le souffle épique viendra lorsque tous tes univers devront se réunir parce que Kang est en train de menacer le multivers tout entier. Là, je trouve que ça aurait été au moins quelque chose de plus fluide et logique. C'est-à-dire que... Et en même temps, super libre. Parce qu'à chaque fois, on part du principe que c'est un autre univers, donc tu peux me raconter ce que tu veux. T'es pas obligé de recoller les morceaux à chaque fois, quoi. Donc ça, j'aurais trouvé peut-être que la phase 4 aurait été peut-être plus intelligente, en tout cas plus intéressante, s'ils avaient, tu vois, au moins tu me posais les bases du multivers et que tu m'explorais plusieurs versions de personnages et que tu me les faisais réunir. Mais voilà, comme tu dis, ils ont un bestiaire immense qu'ils n'utilisent pas ou qu'ils utilisent de manière un peu bancale. Doctor Strange Multiverse of Madness, ça s'appelle Multiverse of Madness et tu m'en montres que deux.
L'idée même, le concept même du multiverse désacralise tout ce qui se construit, parce qu'en fait ça part d'idée que il y a plusieurs univers différents, que ce qu'on a vu en quelque sorte n'est pas sacré, ça fait pas partie d'une histoire en quelque sorte.
Donc du coup, ouais, c'est ça, moi, le problème, c'est que les scénaristes peut-être vont tomber dans le risque de la facilité, quoi.
Non, c'est que il y a rien d'imbriqué dans une histoire, dans une suite chronologique qui donne du sens. Là, tu dis par exemple dans cette nuit, on va te ramener, je sais pas moi, supposons qu'on te ramène un Iron Man, un Tony Stark d'un autre univers, ça détruit toute la valeur du sacrifice.
Le truc, c'est que depuis tout à l'heure, bon, c'est de la critique, mais qui est justifiée dans le cas de Marvel. Mais question, vous, si ça tenait qu'à vous, la deuxième moitié de la phase 4, elle se passerait comment ? C'est-à-dire maintenant, on sait que voilà, la première partie de la phase 4, il y a eu ça de dommage, ça de pas bien, ça d'oubliable et ça de notable. Maintenant, vous êtes dans le rôle de Kevin Feige et vous avez la responsabilité de la deuxième partie.
Je démissionne déjà à sa place.
Je rappelle Luke Skywalker.
Mais vous voudriez voir quoi, hein ?
La bouée de sauvetage, c'est de commencer soit par introduire correctement les X-Men ou ramener une des anciennes équipes, enfin des X-Men. Et même chose avec les Fantastiques, il faut un nouvel ancrage quelque part. Et peut-être commencer à présenter à guichet le nouveau méchant ou quelque chose d'assez consistant pour donner de l'épaisseur à la saga.
Alors pour les 4 fantastiques, c'est pas prévu pour cette deuxième moitié, mais si on se maintenait à...
Il reste que Thor.
Voilà, on va dire que Thor c'est presque vu, c'est-à-dire avec le trailer, on sait plus ou moins à quoi s'attendre.
Il faut nous ramener Nick Fury pour nous permettre de retrouver un peu de lien.
Ouais.
Avec l'ancienne équipe, il faut nous ramener Nick Fury en forme. Il faut qu'on retrouve quelque chose en lien avec cette phase pour que tout ça ait du sens. Parce que sinon, c'est juste un enchaînement d'aventures. Or, le cinéma, c'est pas les comics. On fait pas des cycles comme on fait des runs en comics. Du coup, il faudrait qu'il y ait un lien avec la première phase ou un bon gros mystère sur l'origine des Avengers, une connerie du genre. Mais il faut re-ramener de l'intérêt et pas seulement de dire « Ouais, il y a des mecs, ils sont méchants. » Des fois, ils affrontent un héros tout seul, des fois, ils sont plusieurs. Parce que c'est un peu ça l'impression que ça donne pour le moment. Il faut quelque chose de plus grand, en fait, que juste l'enchaînement des événements.
Parce que finalement, la phase A, même si les films étaient plus ou moins indépendants, t'avais quand même Nick Fury et le Shield qui faisaient office de fil conducteur, tu vois. Thor, t'avais cette notion de recherche, même en post-crédit, mais au moins tu avais le fait que Nick Fury, dès le premier Iron Man, tu as Nick Fury qui essaye de recruter et qui est en train de monter en le Avenger Initiative. Quoi. Tu le sens beaucoup plus dans Iron Man 2 où c'est l'un des cœurs de l'histoire. Tu vois le Shield qui traque Thor dans le film Thor. Je sais pas, mais en tout cas, ouais, c'est vrai que le Shield et Nick Fury au moins était un élément, tu vois, où tu te reconnaissais et ça me permettait de recoudre un peu les fils des différents. Là, l'élément, à part le concept du multivers, tu vois, je vois pas quelque chose qui lie les choses, mais tu l'as pas dans Hawkeye, tu l'as pas dans Moon Knight, tu l'as pas dans Black Widow, tu l'as pas dans Eternals, tu l'as pas dans Shang-Chi.
S'ils faisaient même un épisode spécial Noël, je ne sais quoi, des Avengers, tu mets par exemple l'équipe qui se restructure avec... Je sais pas, moi, par exemple, tu vois Fury et Coulson qui débarquent avec, je sais pas, dans le QG avec James Rhodes qui essaye de faire une réunion ou quelque chose. Tu montres que les Avengers sont toujours là, que James Rhodes, tu rajoutes Ant-Man, quelques personnages, et peut-être Henry Pym qui serait là comme conseiller, comme mentor. Tu vois, au moins, pour leur dire, pour dire aux spectateurs, bienvenue dans la maison.
Bah, en fait, ce qui est bizarre, c'est que par exemple dans Avengers, Nick Fury justifie le fait qu'ils sont en train de s'armer pour se préparer à une menace liée à Thor. C'est-à-dire que lorsqu'il y a eu Thor, ce qui n'a aucun sens parce qu'il y a eu Captain Marvel avant, mais c'est pas grave, mais l'arrivée de Thor sur Terre a montré au Shield qu'il pouvait y avoir une menace cosmique. Donc en fait c'est ce qui motive Nick Fury de quand même s'armer, de se préparer et aussi de faire les Avengers pour pouvoir pallier à ce truc là quand t'as eu maintenant la menace Thanos où tu vois que t'as quelqu'un de je ne sais quelle galaxie qui est capable de déradiquer la moitié de l'univers, n'importe quel personnage sensé qui fait partie un peu de ce groupe là, le premier réflexe qu'il ferait vu qu'il n'y a plus Tony Stark, bah c'est je dois absolument monter une équipe de choc pour pouvoir pallier à ce problème-là s'il revient. Et je trouve ça bizarre que pour l'instant, il n'y a pas eu ce sujet-là, d'y aller quelqu'un qui a envie de recruter des personnes ou mettre en place une initiative pour je ne sais quelle future menace pire que Thanos, etc. Et là, c'est le monde entier, tu vois, qui est au courant de l'existence de Thanos. Chacun est dans son coin.
Elle n'est pas encore claire. Je pense que Saraha, c'est un peu trop tôt pour...
Oui, mais il y a eu Thanos. Tout le monde est au courant qu'il y a Thanos.
Sur 9 ans. Nous, on est en train de...
Non, mais le post-Thanos, logiquement, comme élément narratif, après un post-Thanos, c'est ce que Tony Stark aurait fait s'il était encore vivant. Tu vois, c'est genre... N'importe qui de sensé va se dire, bon, il y a eu Thanos, il faut absolument qu'on recrute ou qu'on mette en place un dispositif de défense intergalactique, j'en sais rien, pour pallier à ce truc-là.
C'est ce qu'il est en train de faire avec le Sword.
Ouais, voilà. le soir.
Bah, c'est ce qu'on verra dans Secret Invasion, peut-être, mais...
En partie, parce qu'apparemment, Secret Invasion, il a lieu durant les 5 années où il y a eu le blip. C'est-à-dire avant...
Oh, bah, c'est encore le foutoir,
c'est,
quoi.
C'est avant que reviennent les... C'est-à-dire avant Endgame.
C'est encore le foutoir, donc, tu vois. Pas logiquement,
forcément.
Tu aurais dû donner ce rôle à Doctor Strange, ou limite, introduire les 4 Fantastiques beaucoup plus tôt, pour mettre en place au moins un leader qui... Zama qui va prendre de la menace au sérieux et qui se trouve, et la future menace se trouve être peut-être encore plus terrifiante que Thanos, où t'as un Kang qui va pas détruire l'univers mais qui va détruire tous les univers, donc c'est encore pire que Thanos. Donc logiquement tu devrais dès maintenant, à ce moment de la phase 4, il est temps de nous introduire un leader qui commence à, je sais pas moi, à recruter, quoi, à mettre en place les choses. C'est ça le problème, c'est que pour l'instant, tu as plein de personnages isolés. Tu m'introduis les Eternals qui sont censés être des créatures surpuissantes qui doivent veiller sur la Terre sans forcément participer. Et puis les mecs, ils cassent le règlement pour participer. Et donc, les Eternals, est-ce que c'est eux qui vont être en charge de ça? Tu sais pas. Donc, c'est un peu... tu vois, c'est encore un peu brouillon, quoi. C'est des gens qui sont éparpillés ici et là. Le seul moment où tu as eu ça, peut-être... C'est Wong qui recrute, enfin qui veut recruter Shang-Chi à la fin. C'est là où tu sens que Wong essaie de recruter des gens et qu'il est intéressé par Shang-Chi. À part ça, tu n'as jamais eu un moment où on te dit « Ok, il y a quelqu'un qui est en train de prendre les taureaux par les cornes et essayer de reformer une équipe de défense. » Moi, c'est le truc moi, qui me fait chier le plus, quoi. C'est que je ne suis pas hypé par... tu sais, par le training montage, quoi, de n'importe quel film.
J'ai l'impression que se prépare au niveau de la construction, de la nouvelle phase. Chaque film, c'est vraiment chacun pour sa gueule. Et même quand tu vois par exemple les réalisateurs là qu'ils ont ramenés, ils sont tous, tu vois, dans une orientation vraiment différente. Quand tu prends les différents films, t'as pas l'impression que c'est le même univers. C'est y a aucune cohérence.
T'as raison.
Bon, franchement, ça me hype pas. C'est-à-dire que là. Chloé Zhao, par exemple, son précédent film avec Frances McDormand, j'avais bien aimé. Et les Éternels, j'ai pas pu le voir. J'ai essayé deux fois et c'est juste impossible. Toi, quand tu enchaînes 3-4 mauvais films, au bout d'un moment, t'as juste pas envie de voir. Tu t'en désintéresses complètement. Moi, perso, c'est ce qui m'est arrivé.
Oui, une question, parce que je pense que on est à peu près d'accord tous les quatre sur la note qu'on donnerait à la phase 4 et les trois premières phases. Mais autour de moi, j'ai... Mais alors, le contraire, Benadum qui me dit qu'il est super hypé par les premiers films de la phase 4, qu'il a adoré comment ils ont introduit, Kang ou un autre personnage. Mais est-ce qu'on ne devient pas des vieux boomers quelque part?
Non, enfin...
J'ai l'impression des fois que je suis complètement en déphasage avec le reste.
Non, parce qu'il y a des gens qui sont un peu trop, qui sont trop bons clients. Enfin, tu vois, c'est la tendance du moment, c'est de l'impression que globalement, et ça concerne pas seulement le cinéma, c'est que t'as les gens qui approuvent tout et n'importe quoi. Par exemple, moi, par exemple, tu vois, qui suis un gros consommateur de BD ou de musique ou je ne sais quoi, y a toujours des produits stars qui sont mis en avant artificiellement par le fric, par la publicité, par les réseaux sociaux, etc. Par le marketing, et qui forcément, y a des gens qui, vu que plus personne n'achète de magazines, de revues, et qu'il y a des algorithmes qui te mettent en avant certains produits, on est dirigé vers la même chose, donc du coup, on perd un peu notre libre arbitre au niveau de la découverte. Donc du coup, les gens n'ont accès que à ce qui est mis en avant, et donc ne peuvent apprécier ou voir que ces produits-là, et si par manque de choix, s'y intéressent ou essaient de suivre la tendance comme des moutons. Mais j'ai pas l'impression que c'est des goûts ou des attraits naturels. C'est pour ça que, quelque part, je prends pas trop en considération ce que pensent ces gens-là. Quelque part, ils ont pas trop le choix. C'est comme si tu demandes à quelqu'un est-ce que tu préfères, tu es assistant politique, ce candidat ou ce candidat, tu fais un sondage sur deux candidats, tu auras l'impression qu'il y en a un qui est très tendance, alors que si tu leur proposais 15 ou 20 candidats, là, toi, et que tu leur permettais de les découvrir un peu plus en profondeur, Là, tu remarquerais que les gens ont plus de particularités et des goûts différents. C'est-à-dire, quand tu vois le dernier Kingsman, je vois qu'il n'est pas dans les box-office, dans les charts. Ça me surprend parce que, là, comme adaptation de comics, je trouve que ça défonce tout ce qui a été fait cette année. Enfin, ces deux dernières années, un truc comme ça, quoi. Et bah, pourtant, il n'a pas été mis en avant. Très peu de gens en parlent. Et bon, je veux dire, c'est pas un chef-d'œuvre absolu, mais il est vraiment...
Oui, parce que cet effet aussi, parfois, je vais me forcer ou je vais m'auto-forcer inconsciemment d'aimer un film parce que c'est la conversation du moment, parce que ça fait cool d'aimer le MCU, c'est l'une des premières, des plus grosses franchises du moment, et ça fait bizarre si je dis que j'aime pas. Donc, je vais me forcer à faire semblant de m'y connaître, tu vois. Donc, plus t'as le syndrome fanboy où t'as des gens, tu vois, limite, qui te crachent dessus si tu aimes pas, parce que, genre, t'es pas un vrai fan... etc.
Ouais, c'est l'un des trucs que je retrouve,
tu vois, bah
plus, on trouve le plus surtout sur les réseaux sociaux. Tu as des gens qui ont le syndrome du fanboy.
Ah, c'est comme pour le foot, quoi. Toi, Provençal qui aime ça, quand tu demandes aux gens c'est quoi ton équipe, je sais pas, moi par exemple espagnol préféré, t'auras droit à FC Barcelone ou Real Madrid, alors que
t'as eu des époques du Deportivo,
pourquoi je sais pas, tu vas dire que le PSG est ton équipe préférée ou le, je sais pas moi, le... alors que voilà, on peut avoir des attraits pour d'autres aspects, c'est un peu ça, c'est pas naturel d'aimer la même chose, de que tout le monde soit unanime pour apprécier les mêmes œuvres, produits culturels ou de divertissement. Moi, j'aime pas dire forcément produits culturels parce que parfois c'est du simple divertissement. Donc voilà, je trouve cette phase 4 franchement mauvaise et je trouve que c'est malheureux que les gens apprécient.
Elle est pas forcément mauvaise, mais elle est bancale, quoi.
Voilà,
c'est-à-dire qu'elle a pas d'âme. Tout n'est pas à jeter. Il y en a certains où, mais il n'y a pas un souffle épique ou un souffle spécial derrière. Mais en tant que divertissement, ça, je veux dire, t'as quand même le savoir-faire de Disney pour au moins ne pas te foutre de ta gueule en termes de spectacle, quoi. À part Black Widow.
Moi, je m'endors devant les derniers films, je m'endors à chaque fois. Alors que tu prends même, par exemple, tu vois, les séries Netflix qui étaient faites avec très peu de moyens, bah franchement, je trouve que c'était quand même plus passionnant. Là, tu me ramènes Iron Fist.
Non, mais ça, de toute façon...
Iron Fist, sur lequel tout le monde a craché, je trouve que pour l'instant, ça défonce n'importe quelle série de WandaVision à
Moon Knight, carrément. Tu vois, moi, c'est ça que je disais par rapport au fait qu'ils auraient peut-être dû jouer vraiment la carte des multivers et faire des films ou des séries complètement indépendantes pour justement avoir la liberté artistique de faire des Iron Fist, d'autres de faire Daredevil, des 4 Fantastiques. Parce que là, vu qu'ils sont dans une équipe de scénaristes qui sont paumés et qu'ils essayent de recoller les morceaux, si tu joues la carte du multivers à fond, à ce moment-là, prends un scénariste qui est complètement libre. Vas-y, fais ce que tu veux et tu peux remettre un peu la recherche du côté artistique ou la recherche de l'originalité sur la table. Parce que tu n'as plus à être l'obligation de le lier ou de suivre un ton spécifique parce que ça se passe dans le même univers, il faut respecter tel ou tel art.
Désolé de vous couper les gars, mais plus on avance dans la discussion, plus le titre de cet épisode il est clair. C'est que le phase K4, parce que là on est vraiment en train de chier dessus, quoi. On a fait un gros caca dessus à Marvel pour ce qu'ils nous ont fait de phase 4. Verdict, on va commencer par ta le lire. Phase K4 ou
Phase 4, complètement chier. C'est-à-dire que, franchement, si je devais garder, si je vraiment fais un résumé, là, pour l'instant, on a eu 1, 2, 3, 4, 5 films avec Black Widow, Shang-Chi, Les Éternels, Spider-Man, Doctor Strange et 1, 2, 3, 4, 5, 6 séries si on inclut le dessin animé What If. Voilà, si Black Widow a chier, Shang-Chi, le titre, voilà, chier. Donc, j'ai même pas vu, franchement, j'avais même pas envie de le voir et aucune raison de le voir. Les Éternels, putain, c'est l'un des pires trucs que j'ai vu de ma vie. Spider-Man, pas déplaisant, mais inutile. Doctor Strange, j'ai trouvé sympa, dans la forme du Sam Raimi et tout, quoi. Thor, la bande-annonce, fait pitié. WandaVision, je trouvais ça intéressant, franchement. J'ai pas tout aimé, mais parfois, il y avait des longueurs, mais grosso modo, c'était bien structuré, c'était intéressant, des bons personnages, une bonne mise en scène, un bon côté dramatique. Falcon et Soldat de l'Hiver, c'est du gâchis parce que ça pouvait être vraiment sympa, mais ils t'ont mis les espèces de terroristes, là. Ils avaient vraiment tête à claque, pas intéressant. C'était, et le personnage de... complètement dépressif de Falcon, ça m'a fait chier, alors qu'Anthony Mackie est plutôt un bon acteur. Et son personnage était sympathique. Loki, ça m'a fait chier, mais comme jamais, le premier épisode, je trouvais ça complètement dégueulasse. J'ai même pas vu la suite. What If, je crois que j'en ai vu un et que j'ai zappé. J'ai J'ai pas aimé les dessins, tout simplement. Hawkeye, j'ai même pas vu, et Moon Knight, j'ai complètement détesté, quoi. Donc c'est vraiment à chier, cette phase 4, mais c'est une diarrhée, carrément.
Avec ta lumière, Marvel, ils en ont bien pris pour leur rang, enfin, de la phase 4. tu les as défoncés, quoi.
Déjà, Gore.
Moi, je serais plus mesuré. En fait, pour moi, c'est normal ce qui arrive. On voit plus les défauts du MCU parce que ses qualités sont moins surprenantes, en fait. Ouais, cette répétition de la même recette, elle est usante et on sait pas où ça va et on se demande si un jour ça va se terminer et comment. Et par contre, globalement, ça occupe. Parce que sur le terrain, ils sont présents. Donc, très sincèrement, suivre cet enchevêtrement de films et de séries, c'est pas désagréable. C'est pas une souffrance. C'est bien produit visuellement, je pense surtout aux séries, parce que dans le cinéma, j'ai envie de dire, c'est normal, c'est le minimum, mais sur les séries, c'est vrai qu'il y a un bon niveau de qualité de production, il y a des acteurs internationaux. Du coup, ça fait le taf, quoi. C'est une bonne formule de Disney+, quoi. Tu as les films, tu as des séries, c'est sympathique. Donc moi, je serais moins en colère que Tanoy.
Je suis un peu du même avis dans le côté... C'est un peu K4 dans le côté chiant, mais pas dans le côté grosse merde, quoi. Pour moi, à part un ou deux titres, on est vraiment dans ce côté magazine Paris Match 1996, dans une salle d'attente, quoi. C'est-à-dire que tu es dans une salle d'attente, tu as de la musique d'ascenseur, tu as des magazines... tu vois, féminin devant toi, tu lis bouquines, ça te fait passer le temps, c'est marrant, tu lis des anciens dossiers, t'as des caméos de Johnny Hallyday, des trucs comme ça. Tu lis ça, ça te fait passer le temps avant de passer ouais, aux choses sérieuses. On se donne rendez-vous à l'épisode 30 ou 28, lorsqu'on fera le bilan définitif de la phase 4. Donc pour l'instant, par majorité, c'est une phase K4. Chers auditeurs, qu'en pensez-vous? Laissez aussi vos avis par commentaire. Notez ce podcast, notez cet épisode, donnez-nous des étoiles. Faites-nous monter dans les différentes plateformes podcast, ça fait toujours plaisir. On donnera un bonbon au premier qui donnera des étoiles. En tout cas, voilà, si vous avez un avis, laissez-le nous sur Instagram, sur nos réseaux. Donc voilà, d'ici là, écoutez, portez-vous bien, faites comme Batman, sortez couvert et masqué. D'ici là, ciao ciao, salut les potes.
Ciao tout le monde.
Salut les podcasts.